Juste, on va vous proposer un ensemble qu'on espère un peu cohérent sur la démarche, on va dire, de la réflexion sur l'enseignement d'une partie du programme jusqu'à la mise en œuvre en classe. C'est donc, on va partir sur la mécanique pour l'exemple de mise en œuvre, l'exemple de réflexion sur quel choix on a fait pour enchaîner les différents concepts qu'on va vouloir enseigner en classe. Et puis après, bien une fois qu'on a fait ces choix, il faut concevoir des activités. On vous proposera un cahier des charges. Et puis après, une fois qu'on a une activité, eh bien il faut la mettre en œuvre en classe. Donc, quelle est cette démarche? Vous allez entendre d'ailleurs des échos avec ce qui a été présenté ce matin dans l'enseignement par activité que vous ont présenté les collègues de maths sur Sésame. Vous allez y retrouver des choses. On travaille ensemble, c'est pas le hasard.
Oui, alors on prend la mécanique parce que c'est une séquence qu'on a bien travaillée, mais en fait, c'est pour illustrer ce qu'on veut dire, mais pas pour le contenu lui-même. Donc l'idée, c'est de dire comment on va construire une séquence d'enseignement à partir du programme. Ce qu'on a fait nous, donc c'est notre expérience, c'est pas ce qu'il faut faire absolument, mais c'est vraiment une expérience qu'on vous propose, c'est d'abord de regarder la structure conceptuelle que le programme demande d'enseigner. Donc on a essayé d'expliciter les concepts qui sont à enseigner et éventuellement, si nécessaire par rapport à nos points de vue sur l'apprentissage des élèves, de rajouter des notions qui nous semblent indispensables pour que les élèves acquièrent les concepts qui sont à enseigner. Alors je vais vous donner un exemple de cela. Je prends le programme actuel qui va probablement en changer rapidement dans l'année prochaine, mais qui a duré très longtemps, qui est à propos c'est un enseignement en seconde. L'analyse, et c'est la forme exacte du programme. Ici, vous avez le contenu, et ici, vous avez connaissance savoir-faire exigible. Donc, le contenu, c'est relativité du mouvement, principe d'inertie, et dans relativité du mouvement, décrire le mouvement d'un point dans deux référentiels différents. Donc, on va prendre d'abord cette partie-là. Dans cette partie-là, on voit bien qu'il y a relativité, mouvement, référentiel et point. C'est les choses qui sont en bleu, sont les concepts qui nous semblent être à enseigner. Qu'est-ce qui est implicite dans décrire le mouvement d'un point dans deux référentiels? C'est en fait la trajectoire du point, parce que le mouvement du point suppose la trajectoire et la vitesse. Donc on a considéré qu'il fallait expliciter ces concepts-là et qui sont des concepts à enseigner en tant que tels. Et du coup, on a construit explicitement le savoir théorique entre guillemets enseigné sur trajectoire du point dans deux référentiels différents et le déplacement d'un objet, c'est le champ expérimental. Alors, quand il s'agit de passer d'un objet à un point, et là aussi, on a considéré que ce passage-là, par rapport à notre approche en termes de modélisation, toujours, qui joue un rôle très important dans l'analyse du savoir et de l'analyse des difficultés des élèves, le passage d'un objet à un point n'est pas évident pour les élèves. Et donc, on a construit une activité qui va prendre en compte cette difficulté. Donc, on a construit du coup une séquentialisation des concepts, puisque pour enseigner, il faut bien séquentialiser. Et on a commencé par introduire le point, ensuite la trajectoire, ensuite la vitesse, ensuite le mouvement qui est direction sens vitesse, et puis les référentiels à la fin. Donc en fait, on a essayé de décortiquer les aspects théoriques pour qu'ils deviennent apprenables. Et du coup, ça nous a obligés à expliciter certains concepts. Par exemple, pour ce fameux point, on commence l'activité de cette partie, donc vraiment la partie là-dessus, sur représentation d'un objet par un point. Et là, on demande la question. Alors c'est très intéressant, parce que cette question, les matheuses vous l'ont présentée ce matin, mais en sixième ou en quatrième. Quelles informations perdez-vous si vous représentez les objets suivants par des points particuliers? C'est toute démarche qui est inhérente à une activité de modélisation, qu'elle soit en maths, en physique, et on se disait en aparté avec Patrice que ça serait bien que les élèves l'apprennent bien avant la seconde. Mais et ce que je vais vous montrer, donc là on a sur le site Pégase, vous pouvez deviner l'activité qui est telle quelle, et les objets qu'on demande de travailler, c'est une balle de tennis, une roue de vélo et une luge quand elle glisse. Alors quand... je vais vous donner une petite vidéo très très courte qui montre les difficultés des élèves. C'est dans une classe de seconde qui est plutôt pas facile, disons.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Excusez-moi, la vidéo, les élèves viennent de faire l'activité, il y a la mise en commun de cette activité que je vous ai présentée, quelles informations perd-on? Et dans cette classe, le contrat en jeu que Didier va vous expliquer est un contrat où les élèves peuvent dire ce qu'ils pensent, où on les invite au contraire à dire ce qu'ils pensent.
La rotation là-bas, il faudrait préciser, voilà.
J'avais mis aussi la vitesse.
Quelle vitesse?
La vitesse de la balle, parce que quand on se concentre sur
quoi, seul de la balle.
Oui. Tu seras le même.
On ne peut pas voir s'il y a autour, on ne voit pas la
rotation
de vitesse.
Quand Agassi ou autre fait un ace et qu'on vous dit 200 km/h,
on voit la balle qui va vite, ça c'est sûr, mais quand on a un point sur la balle, et ben.
Mais si elle passe.
Ouais, mais elle va toujours à la même vitesse.
Pareil, il va passer.
Alors, si ce que vous voulez me dire, c'est que tous les points de la balle n'ont pas forcément la même vitesse.
Là, on voit bien qu'il y a une difficulté, c'est que le prof n'a pas compris la difficulté de l'élève. Ce que l'élève dit, si la balle elle devient un point, on perd l'impression de vitesse. Donc lui, il pense que la balle. On va prendre un point de la balle, mais c'est pas le point n'est pas le représentant de la balle, mais un point de la balle. Et si la balle devient un point, si elle devient toute petite, on perd l'impression de vitesse, dit-il. Et le prof a mis du temps à comprendre.
Non, mais le fait qu'elle soit moins grosse, ça va peut-être
dire qu'elle va perdre la vitesse.
Voilà, le fait que la balle soit moins grosse, là c'est vraiment explicite, pour lui, la balle elle devient petite et c'est le point. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des difficultés pour les élèves à passer d'un objet au représentant de l'objet qui n'est pas l'objet. Et dans notre construction de séquence, on va expliciter tout ce qui est la partie théorique, c'est-à-dire le savoir à enseigner théorique, et ce texte est explicité, enfin plutôt, ce théorie est explicité dans un texte qui est distribué aux élèves. Alors, un des points importants de cet aspect est que, d'une certaine manière, le savoir est dépersonnalisé. C'est-à-dire, quand le prof va distribuer le texte en disant, voilà, c'est un texte qui donne le savoir de la physique, au niveau de la seconde, bien sûr, eh bien, à ce moment-là, quand il y a une erreur ou quand il y a une difficulté, le prof dit, on peut se référer à ce texte, et non à mon savoir personnel. Donc, ce texte est aussi une objectivation du savoir en physique. Il joue aussi ce rôle. Voilà, je m'arrête là où j'ai peut-être été longue, où je présente. Je peux encore continuer 2 minutes. Alors, juste pour la deuxième partie, il y a un point où ça c'est le programme officiel, et le programme officiel parle de la force du principe d'inertie, et il dit, il énonce le principe d'inertie comme il voudrait que l'on l'énonce, un corps qui est soumis à des forces qui se compensent, et un corps qui n'est soumis à aucune force se compense. Et dans le programme officiel, il y a un moment où, par les effets d'une force, où on demande au professeur, là je le retrouve plus sur le champ, qu'il faut parler des... Voilà, c'est ça. 1-2-A, c'est les effets d'une force sur le mouvement. Et on voit bien que cette formulation ne nous convient pas du tout, puisque un concept, pour nous, la force est un concept. Et là, le mot force est ambigu, parce que les effets d'une force, ça serait l'effet de la force d'une personne sur quelque chose. Et là, on est dans le sens quotidien. À ce moment-là, il y a bien un effet de la propriété d'un homme, d'une personne qui lâche, qui pousse, qui tout. Mais un concept n'a jamais eu un effet sur la nature. C'est-à-dire que le concept est quelque chose qui est construit par l'homme et ne peut pas agir sur les objets et le comportement de la nature. Donc on voit bien que cette formulation effet d'une force sur le mouvement d'un corps est une formulation qui n'est pas compatible avec notre approche sur la modélisation où on veut absolument distinguer ce qui relève des concepts et des objets-événements. Et à ce moment-là, on va reformuler dans notre proposition les effets d'une action. On agit effectivement d'un objet sur un objet change le mouvement de l'objet et on le modélise par quand une force est exercée sur un système, excusez-moi, sa trajectoire ou sa vitesse sont modifiées. Et là, on a effectivement des relations ici internes à la théorie au modèle dans la première phrase, c'est quelque chose qui est de l'ordre des objets événements. Donc ça nous a obligés à reformuler et à distinguer action et force. Ce qui veut dire que quand on a un programme officiel, eh bien, il y a une analyse très importante à faire en termes de savoir à décortiquer tous les concepts et voir comment, quelquefois dans les programmes, les concepts sont trop gros. Pour être apprenables, il faudra les décomposer en plus petits éléments de savoir pour qu'ils deviennent apprenables.
La première présentation que je vais vous faire, qui va être assez courte, elle est liée à un cahier des charges. Ce cahier des charges, je vais vous faire un tout petit historique, parce que pourquoi on a voulu l'écrire, c'est parce que depuis septembre 2008, il est prévu un changement du fonctionnement du lycée en France, un nouveau lycée qui va finalement se mettre en place en septembre prochain, donc 2010, et devait arriver un programme très très vite, un nouveau programme de seconde très très vite. Et André vous a montré un petit bout de Pégase tout à l'heure. Il y a un site qui s'appelle Pégase sur lequel il y a plusieurs centaines d'activités qui ont été écrites, et on s'est dit que on était plus capable en un temps record d'écrire plusieurs centaines d'activités à 15-20 profs, c'était pas possible. D'où l'idée de mettre en place un site de mutualisation, donc de proposer à des collègues d'envoyer des idées d'activités sur lesquelles on pourrait retravailler. Tout en se disant, il faut quand même que les collègues aient une idée de notre approche, parce que on risque d'avoir des activités qui ne nous conviennent absolument pas. Vous voyez que André vous a montré que dans le BO, il y avait des approches, l'effet d'une force. C'est vrai que c'est un mot qu'on prononce pas quand on enseigne en mécanique en seconde. Donc on s'est dit, il faudrait au moins avoir un petit guide pour l'enseignant qui dépose des activités, pour que il voit un petit peu quel est l'esprit des activités qu'on propose. D'où un cahier des charges. Alors, ce cahier des charges, il est sous forme écrite, je vous le distribuerai tout à l'heure. J'ai juste fait quelques diapos pour vous montrer les points essentiels. On a d'abord essayé d'expliquer, on fonctionne par activité, je vais détailler un petit peu plus tout à l'heure, dire c'est quoi une activité pour nous. Donc l'activité qui permet à l'élève de découvrir un nouveau savoir, et on la différencie d'un exercice. Et on essaie aussi de bien se positionner sur le fait que l'activité, c'est pas simplement une activité d'introduction qu'on fait au début du cours. C'est le mot qu'il faut lancer, du cours magistral. C'est pas une activité puis ensuite on fait un cours magistral, mais on va vraiment fonctionner en enseignant que par activité. Et l'idée, c'est que cette activité permette à un élève l'autonomie, la plus grande autonomie possible, pour qu'il puisse se poser des questions, qu'il puisse répondre aux questions, qu'il puisse avancer un peu à son rythme avec ses connaissances. Et ces réponses, qu'il va donner à ces questions, elles seront parfois incorrectes, et on accepte ces réponses incorrectes, et soyons clairs, certaines activités sont là pour provoquer des réponses incorrectes, pour travailler évidemment sur ces réponses-là. Alors cette activité, elle est aussi au cœur de la progression. André a assisté aussi hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, dessus. C'est qu'on ne peut pas prendre une activité, dire tiens, je vais faire une activité là-dessus. Et, à la limite, peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui va se passer après, il y a une logique, il y a une progression. Et cette activité, elle s'inscrit dans une séquence, dans une progression. Et il est important donc d'évaluer ce que l'élève sait ou est censé savoir. C'est pas toujours les prérequis, les préacquis, je ne sais pas quels sont les termes qu'il faudrait utiliser. Et évidemment, quel est ce qu'on pourrait appeler l'enjeu. Je reviendrai un petit peu sur cette idée tout à l'heure. Donc, elle est là, cette activité, mais pourquoi on la met à cet endroit-là et qu'est-ce qu'elle va amener par la suite. Donc forcément se poser ça. Et donc on disait aux collègues sur ce site, quand vous nous envoyez une activité, vous ne nous l'envoyez pas comme ça. Vous nous dites ce que vous avez fait avant et ce que vous voulez faire après. Donc situez-la vraiment dans une progression. Alors, on essaie de mettre quelques critères pour ce texte d'activité. Alors, voilà quelques critères qu'on a mis en place. L'objectif de l'activité, il faut que on donne un texte d'activité qui a l'objectif, le but, qu'on appellera aussi enjeu, mais on n'utilisait pas trop ce terme-là dans le cahier des charges, parce que peut-être un petit peu plus délicat à comprendre, on en discutera tout à l'heure, que chaque question posée n'implique pas un trop grand nombre de tâches. Alors en atelier hier avec les physiciens, on a regardé un petit peu cette histoire de tâches qui peuvent être très importantes. Parfois une simple question s'il peut paraître une simple question calculée, la valeur de la force, on a travaillé là-dessus hier, ça peut impliquer un nombre de tâches tellement immense que l'élève peut très vite se retrouver bloqué. L'activité, elle est construite de façon à réduire les difficultés. C'est pas la peine de surcharger une activité avec des conversions, des changements d'unités, des calculs compliqués. Ça peut être le jeu d'une activité, mais le faire systématiquement, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, ça empêche de voir l'essentiel, souvent. Ça bloque l'essentiel. Certaines activités attirent l'attention des élèves sur les mots. Alors, vous nous entendez le dire depuis 2-3 jours là, l'importance des mots, puisqu'il va y avoir sans doute des étincelles qui vont se faire entre le sens du mot pour le physicien et le sens du mot dans la vie quotidienne. Un peu évoqué ce matin, on avait des discussions sur la quantité en mathématiques et en physique. Donc c'est important qu'il y ait des questions consacrées, ou une activité qui soit carrément consacrée à ça, ou des questions consacrées à cette idée-là. On consacre des activités à la notion de vitesse ou la notion d'accélération. L'accélération dans la vie quotidienne et l'accélération pour le physicien, il y a des différences et il faut pointer ça à l'élève. Le texte de l'activité, je continue, importance des termes, alors justifier, décrire, montrer, indiquer, tous ces termes qu'on utilise à toutes les sauces, dans toutes les matières. Quand l'élève il passe d'une classe à l'autre, il se retrouve avec le prof qui dit encore justifier, qui dit expliquer, et il s'aperçoit que le prof n'a pas la même chose en tête que l'autre prof qui vient de voir une heure avant. Il n'attend pas la même chose. Justifier, ce mot-là, on a tendance à dire ne le laissons pas tout seul. Explicitons ce qu'on veut. Justifier quoi ? Ben justifier à l'aide des observations, du modèle, des connaissances antérieures, de la vie quotidienne, par un calcul. Mais expliquons ce mot justifier. Quand on corrige le bac, on voit très bien, dès qu'il y a une question justifier le jour du bac, on est à peu près sûr de mettre les points à tous les élèves, parce que dès que tout le monde se réunit, tous les profs se réunissent pour savoir ce qu'on attend, eh bien vous mettez 20 profs autour de la table, il y a 20 attentes différentes. Je caricature un peu, mais c'est à peu près ça, et au bout du compte, on dit on va tout accepter, on va y mettre tous les points. C'est peut-être fait pour ça d'ailleurs le jour du bac. Bon. Le texte de l'activité, elle doit distinguer ce qui relève des objets et des événements. Hein. On n'insiste pas là-dessus, on en a déjà discuté. Par exemple, je vous mets un petit exemple, et plutôt que l'air est un gaz parfait, on peut dire que l'air peut être décrit dans les conditions de l'expérience par le modèle du gaz parfait. C'est plus long à écrire, c'est peut-être plus lourd, mais c'est sans doute plus clair à terme pour l'élève. Alors, quand c'est possible aussi, il est intéressant d'inviter l'élève à prévoir ce qui va se passer. On est sur la motivation, ça marche très très bien ça. Si on demande à l'élève de prévoir avant qu'il fasse l'expérience, vous êtes à peu près sûr que tous les élèves s'engagent dans la tâche, vont faire des prévisions, et puisqu'ils vont pouvoir vérifier eux-mêmes tout de suite par l'expérience. Il est primordial aussi que le sujet lui permette de dire ce qu'il sait sur le sujet, enfin que le texte lui permette de dire ce qu'il sait sur le sujet du point de vue de ses connaissances quotidiennes, ce qu'ils ont déjà appris en physique. Hein, on s'appuie sur des choses qu'il sait déjà, ça fait écho, des choses qu'on a déjà évoquées. Aussi sur des choses qu'il a en tête, les conceptions. Alors, ça va faire transition avec la présentation suivante. Cette activité, elle s'inscrit dans un fonctionnement global. Donc c'est pas ce texte-là, il correspond à un fonctionnement dans lequel on va le faire tourner. L'idée c'est de faire de permettre à tous les élèves d'adhérer à cette démarche-là. Et donc déjà si on veut faire adhérer les élèves, le mieux c'est qu'ils se sentent compétents assez rapidement, et on a souvent quand on commence une nouvelle partie des activités qui peuvent paraître simples. Je suis vraiment en train de le vivre pendant que vous étiez en train de discuter mardi après-midi. J'avais cours avec des élèves de seconde qui étaient des élèves littéraires, des futurs élèves littéraires qui n'ont pas les sciences physiques, c'est pas trop leur truc, c'est en France aussi, et ils avaient une activité simple à faire. C'est pas le cas sur toutes les activités, mais ils ont tous adhéré à ça parce qu'ils voyaient qu'ils étaient capables de donner une réponse. Et donc, alors j'ai usé un peu la corde, je veux avouer là-dessus, parce que j'en ai fait plus que d'habitude sur ces activités-là, parce qu'ils étaient tellement motivés que fallait pas lâcher. Mais c'est important qu'ils puissent s'impliquer là-dedans, qu'on les perde pas tout de suite. Donc, cette idée d'activité qui les fait adhérer à la démarche qu'on leur propose. Une activité, elle est là aussi pour favoriser le débat entre élèves. C'est important que dans le mode de fonctionnement, on travaille pas tout seul, on travaille à plusieurs. Et on discute sur ce qu'on veut, sur la réponse qu'on amène. Et puis, évidemment, il va falloir qu'il garde des traces. Alors, les traces écrites qu'il va devoir avoir, c'est évidemment la correction, c'est ce qu'il a écrit lui, c'est la correction. Et on insiste un peu, et on a le statut de l'erreur qui est derrière ça, sur le fait que l'élève a le droit de se tromper, qu'on va prendre en compte son erreur, et qu'il faut qu'il la garde sur son cahier, sur sa feuille, et surtout pas qu'il sorte l'effaceur, la gomme, etc. Donc il va falloir qu'il conserve ça. Et donc l'activité, elle est là parfois pour les faire se tromper, et il faut que cette erreur, elle reste pour qu'il puisse la garder en mémoire. Voilà, ça c'était le cahier des charges. Donc c'est vraiment ce qu'on pourra vous distribuer tout à l'heure. Et alors, plus concrètement, je ne sais pas si c'est plus concrètement, je vais partir sur quelques idées théoriques, mais comment on met ça en place? Comment on enseigne par activité, une proposition. Donc ça, c'est des réflexions qui peuvent se faire avec des stagiaires. Hein. C'est d'une information pour des profs, mais c'est aussi une réflexion sur un mode de fonctionnement possible. C'est pas le seul, évidemment, mais c'en est un possible et c'en est un qui fonctionne. Donc enseigner par activité, pourquoi le faire et comment le faire. Je vous ai remis les hypothèses d'apprentissage, simplement. Hein, on les a évoquées hier. On apprend à partir de ce que l'on sait. C'est un tout petit peu différent de ce qu'on a écrit hier. On a tenu compte de la discussion. Hein. On s'approprie le plus souvent le savoir par petits éléments. Apprentissage partiel du savoir enseigné. Et on l'apprend en communiquant avec les autres. Vous voyez que ces trois hypothèses d'apprentissage, elles font déjà écho à des choses que je viens de dire dans le cahier des charges. Et on va les prendre en charge dans le fonctionnement, dans la mise en place de ce mode de fonctionnement. Il y a aussi quelques éléments essentiels du contrat. Ces éléments, ils sont fixés sur des attentes réciproques prof-élève. Le prof attend des choses de l'élève. L'élève, il attend aussi des choses du prof. Et essayons de prendre ça en charge pour que, ensemble, on puisse avancer. Alors quoi? Le rôle essentiel de l'erreur. Je viens de dire, le prof, de temps en temps, il va provoquer l'erreur, mais c'est pas simplement pour la provoquer, c'est parce qu'il va s'appuyer dessus. C'est ce que vous avez fait ce matin, hein. On provoque la proportionnalité. Donc, on la provoque, mais on la prend en charge aussi. C'est pas simplement, ok, vous avez fait une erreur, très bien, ou je vais pas l'évoquer, si on va vraiment la prendre en charge. Et puis l'élève, il attend aussi que le prof prenne en charge cette erreur. Il se trompe. S'il se trompe et qu'on s'occupe jamais du fait qu'il se soit trompé, il va arrêter de travailler, simplement parce que je dis ça sert à rien, ce que je fais n'est pas pris en compte. Possibilité de débattre aussi des propositions argumentées de l'élève. Alors ça, c'est important. Le prof attend des propositions argumentées, pas simplement une réponse oui, non, blanc, rouge, mais pourquoi j'ai donné cette réponse. On crée des débats, vraiment, là encore, on se contente pas de dire à l'élève argumenter, puis on passe à autre chose, voilà la réponse de la physique, mais d'abord, quels sont vos arguments? Du temps, de l'autonomie, parce que ce qui a été évoqué au-dessus, en particulier le débat et l'argumentation, ça demande du temps, ça demande de laisser les élèves un peu autonomes. Un enjeu explicite aussi, je vais revenir dessus. Et évidemment, une explicitation, c'est, vous l'avez évoqué pas mal ce matin aussi en maths, hein, qu'on peut appeler l'institutionnalisation, une explicitation de ce qu'il faut savoir. L'élève attend ça, du prof aussi. Je repars, mais qu'est-ce qu'il faut que je retienne? Alors, quelques petites... je continue à argumenter un petit peu là-dessus avant de vous montrer la mise en place concrète. Favoriser l'implication. Alors, pour favoriser l'implication, on a évoqué quelques pistes, hein, faire peut-être des activités un peu simples, provoquer l'envie de faire parce qu'on va avoir la vérification tout de suite, on peut prévoir et on vérifie la prévision. Mais c'est aussi, pour favoriser l'implication, il faut expliquer ce mode de fonctionnement. Il faut qu'on explique à l'élève au début, et ça demande du temps. C'est pas toujours simplement à l'élève qu'il faut l'expliquer, c'est parfois aux collègues, c'est parfois à l'institution, c'est parfois aux parents. Donc ça demande une vraie réflexion, un vrai travail dessus. Pourquoi on fonctionne comme ça? Si c'est pas expliqué, on a souvent des retours. Hein, les retours de l'élève qui a l'impression qu'il y a une espèce de flou, parce que derrière ce mode de fonctionnement, il n'y a pas de cours magistral. Il n'y a pas de cours magistral, il n'y a pas ce cours avec un titre, un grand 1, un grand 2, un grand 3. Donc ça, c'est rassurant, ce cours. Je peux m'appuyer dessus pour apprendre. Si j'ai plus ça, je fais quoi? Donc si l'élève comprend le mode de fonctionnement par activité et pourquoi on le fait, il y a une application beaucoup plus importante. D'autant plus qu'en général, hein, l'autonomie, l'autorégulation, c'est pas mis trop en place dans le système scolaire, dans le milieu scolaire en général. En général, c'est le prof qui est dominant, hein, si je le fais un peu caricatural, et c'est lui qui décide, c'est lui qui dit, et puis on avance. C'est le cours magistral, ça va dans un sens, et c'est aussi l'autonomie elle est assez peu attendue de l'élève. Donc on a le fait de laisser beaucoup de place à l'élève, c'est aussi ce que disait André sur le fait que le savoir, si le prof distribue le savoir écrit sur une feuille, par exemple, c'est plus le prof détenteur de savoir, mais même si c'est lui qui l'a écrit cette feuille. Bon, mais c'est le prof comme intermédiaire entre la physique et l'élève, la physique chimie et l'élève. Ça déplace un peu son rôle dans la classe. Moi, je trouve ça très confortable. Certains n'aiment pas, mais en tout cas, c'est vis-à-vis de la relation aux élèves, c'est en général un petit peu plus confortable. Alors, motivation aussi de l'élève, parce que si on lui a bien expliqué le mode de fonctionnement, il comprend un petit peu ce qu'on attend de lui. Il sent un sentiment d'arbitraire qui va diminuer parce que il a le droit de s'exprimer. L'arbitraire, on l'a évoqué sur la question du livre, hein, le livre qui est immobile sur la table. Ça fait un peu une question de physicien. Si on lui explique pourquoi on fait ça, sa vision, elle est de la physique est peut-être moins arbitraire. Aussi une prise en compte de ce qu'il sait et de ce qu'il produit, ça c'est important. Ça prend du temps. Poser cette question, elle a déjà été posée ce matin. C'est chronophage, évidemment, mais des fois ça prend du temps au début, peut-être pour en gagner par la suite. Donc on peut avoir cet espoir en tout cas. Mais il faut prendre en compte ça. C'est pas simplement je m'exprime sur ma feuille, mais après le prof il prend en compte ce que j'ai mis en place, ce que j'ai dit, ce que j'ai produit, mes arguments. Et encore une fois, hein, que ça soit juste ou que ça soit pas juste, c'est plus facile d'aller trouver la bonne réponse dans la classe et d'avancer à partir de cette bonne réponse. Ça permet d'avancer plus vite, mais ça laisse beaucoup de monde sur le bord de la route. Et puis des activités qui suscitent la curiosité, la recherche, on l'a déjà un petit peu évoqué. Donc du temps, hein, j'insiste lourdement là-dessus, parce que là c'est aussi des spécialistes en motivation qui nous disent si on laisse pas de temps, bon, on est tous pareils, hein, si on n'a pas le temps de réfléchir, et si on sait qu'on n'aura pas le temps, on réfléchit pas, et si on nous dit vite, enfin, tous ceux qui ont des enfants ici, vous savez bien que le matin, quand vous dites vite à vos enfants, c'est pire que si on essaie de prendre le temps. Donc voilà. Donc c'est un peu le même problème. Pardon. Oui. Et donc c'est important. Donc l'urgence, oui. Donc c'est ce terme d'urgence, hein, ça déclenche un sentiment d'insécurité et ça a tendance à arrêter, à bloquer l'envie de réfléchir et la recherche d'hypothèses, de questionnements. Et puis on essaie de mettre en relation les savoirs et cette mise en relation, elle prend du temps forcément. Elle nécessite de réactiver les connaissances. On apprend par petits bouts, hein, mais il faut relier les petits bouts entre eux. Et les petits bouts entre eux, c'est les élèves qui vont le relier entre eux. C'est eux qui vont le faire. C'est pas le prof. C'est pas simplement le prof qui peut le faire. Il faut que l'élève puisse le faire. Et ça prend forcément du temps. L'erreur, elle est importante aussi. Je l'ai dit, je réinsiste. Si on évite de l'aborder en se disant oh, cet élève va mal le prendre, c'est une mauvaise idée parce que il va mal le prendre. Il va mal le prendre parce qu'il a produit quelque chose et qu'on n'a pas tenu compte de ce qu'il a produit. Donc, et on abandonne vite parce que après tout, je me trompe, d'accord, mais il s'en fiche, le prof. Donc après tout, ça sert à rien que je travaille. Il y a cette idée-là, l'erreur, elle est en général pas isolée, elle est reliée, elle est dans une modélisation qui est construite, qui peut parfois être de l'ordre du monde de la théorie et des modèles du quotidien, des théories quotidiennes qui fonctionnent pas trop mal dans la vie quotidienne. Donc si on ne fait pas exprimer ces théories quotidiennes, on ne pourra pas partir de ces théories pour construire. Et puis, oui, je peux laisser ces deux aspects-là. Les spécialistes du cerveau vous disent que les petites théories quotidiennes comme ça qu'on s'est faites, elles sont inscrites dans le cerveau, il y a des connexions qui se sont faites, et à moins d'aller dans le cerveau et d'aller détruire ces connexions, en général on fait pas trop ça, c'est pas très faisable et agréable, elles y sont définitivement. Et si on met en place une autre, on arrive avec notre explication de physicien, on va la mettre en place, l'élève va jouer le jeu éventuellement, donc il va construire une autre connexion ailleurs. Et puis le jour où il va se retrouver devant un questionnement où il aura à faire appel à cette théorie, il aura le choix entre ces deux ensembles de connexions qui sont faites. Et lequel est-ce qu'il réactive le plus souvent ? Celui qu'il a activé le plus souvent. Donc celui qui est mis en place depuis très longtemps, donc pas celui qu'on vient de mettre en place. Si on a réussi à faire sortir cette théorie quotidienne, par exemple, et qu'on l'a reliée à la théorie physique, bon, peut-être qu'il va sortir sa théorie quotidienne pour expliquer, mais il va pas pouvoir s'empêcher de sortir la théorie du physicien avec. Ça va être compliqué pour lui. Mais en tout cas, il risque de se dire, tiens, il va devoir s'arrêter et prendre un petit peu le temps d'y réfléchir un petit peu plus. Et donc, mais il faut prendre le temps de faire ces connexions entre ces deux explications-là. Et ça prend évidemment du temps. Je traîne de trop. Il est 3h, oui. Alors, maintenant, concrètement, je parle de trop. L'organisation temporelle, comment on met ça en place dans... là, c'est très concret, maintenant. Comment on met ça en place dans une classe ? Lorsqu'on commence une activité, on définit l'enjeu de l'activité. On fait une introduction de l'activité. La partie en bleu, vous voyez bien en bleu ici, c'est bon. Des fois, les couleurs sont pas respectées. C'est le prof. Hein, c'est le prof qui fait ça. Et puis après, on fait travailler les élèves en petits groupes, par 2, par 3, par 4. Puis vous voyez des petites barres bleues là, c'est-à-dire que le prof de temps en temps il intervient au niveau des groupes. Mais il y a une grande plage où les élèves travaillent en groupe. Et puis à un moment donné, mise en commun, débat, explicitation du savoir, ce qui a déjà été évoqué ce matin hein, sur l'exemple des pains là, en collège, en maths. Et puis éventuellement, vous voyez, hein, vous avez entendu la vidéo tout à l'heure, il peut y avoir une mise en commun, puis les élèves y rediscutent quand même entre eux, ou la nécessité que le prof renvoie les élèves discuter un petit peu pour faire avancer la discussion. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on a la justification éventuellement de l'activité suivante, éventuellement des activités, un exercice, donc ça. Et ça fonctionne tout le temps comme ça, et nulle part apparaît de cours magistral. Hein. But en jeu, faire une différence entre les deux, j'aurais tendance à dire que le but, c'est un peu comme si on avait écrit une activité, je fais caricatural, hein, une activité en dehors de ce qui s'est fait avant et après. Par exemple, le but de cette activité, c'est d'être capable de représenter un vecteur. Voilà, bon. Pourquoi j'ai besoin d'un vecteur ? Ça, c'est l'enjeu. Pourquoi est-ce que le prof il me demande de représenter un vecteur ? Qu'est-ce qu'il a en tête derrière ? Donc explicitons pourquoi on va avoir besoin du vecteur, pourquoi on a besoin d'une nouvelle modélisation, pourquoi cette étape elle est indispensable pour l'apprentissage. On peut essayer de leur dire ça. Et puis on leur dire aussi, tiens, quand on fait ça, on s'appuie sur ce qu'on a fait avant aussi. Hein, on a parlé d'action et on s'appuie sur l'action. Voilà. Ça c'est distinguer but et enjeu. Le travail en petits groupes, les élèves ils font quoi ? Ils travaillent à plusieurs, ils ont des consignes, ils doivent se mettre d'accord sur une réponse. S'ils sont par deux, ils doivent donner une réponse commune aux deux. Et ils doivent la rédiger. Il faut un débat oral entre eux et il faut une rédaction commune aux deux. Et ça, ça demande évidemment du temps. Et le prof, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là ? Il reste pas assis derrière son bureau. Il se balade et il essaie d'observer ce qui se passe dans la classe parce qu'il va en avoir besoin par la suite. Il va avoir besoin de se nourrir de ce que font les élèves. Il va essayer de les déranger le moins souvent possible parce que quand on débarque comme ça dans une discussion d'élèves, on est capable de casser la discussion. Et quand le prof repart, on le voit sur les vidéos, il n'y a plus rien après parce qu'il a cassé la discussion entre élèves. Donc, parfois, c'est nécessaire d'intervenir, hein, mais il essaie plutôt d'intervenir si on le sollicite. Et quand on le sollicite, il essaie d'avoir des réponses, on va dire, il essaie de pas donner la réponse, il essaie de faire avancer la discussion sans donner la réponse. Évidemment, son travail, c'est d'avoir une vision exhaustive de ce qui s'est fait dans la classe, justement pour le prendre en compte après dans le travail de groupe, donc quand on retravaille en classe entière, et réguler les élèves qui travaillent pas, mais ça, évidemment. Il faut des consignes du côté des écrits. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Les élèves ont beaucoup de feuilles. Il faut prendre en charge le fait qu'ils ont beaucoup de feuilles, qu'ils vont devoir écrire, qu'ils vont devoir ne pas effacer, qu'il va y avoir leur réponse écrite du binôme et puis la réponse de la classe, qu'il faut garder les deux, donc un jeu de couleurs, par exemple, pour distinguer les deux. Donc il faut travailler sur le fonctionnement avec les élèves. Il y a une mise en commun, donc il y a un débat où le prof, bah, il s'est nourri de ce qui s'est passé tout à l'heure en binôme, donc il s'appuie là-dessus pour faire s'exprimer ses différentes idées. Il fait débattre les élèves et le but est d'arriver à essayer de trouver un point d'entente, si possible avec la physique, hein, tant qu'à faire, mais bon, c'est pas toujours évident. Il y a un corrigé, donc, qui est fait, hein, corriger, donc qu'est-ce qu'on note finalement pour cette activité? Il faut que ça soit clair, puisque l'élève attend ça, il attend qu'il y ait quelque chose de clair d'écrit sur son papier. On fait noter la réponse attendue, on interdit de faire disparaître la mauvaise réponse du point de vue de la physique, évidemment. On utilise une autre couleur, par exemple. Et puis, parfois, on peut être amené à expliciter un nouveau savoir. Parce que tout sort pas de l'activité. Parfois, il faut donner un modèle, un nouveau modèle. On va aborder une nouvelle notion. Voilà ce qu'on dit la physique. Donc ça, c'est un nouveau modèle, une partie de modèle. Et puis les traces écrites, je l'ai déjà dit, je vais passer plus vite dessus. Hein, ils ont un cahier, des feuilles sur lesquelles ils ont écrit tout ça. Le modèle, ce qu'on appelle la feuille du modèle, si vous préférez. Donc les connaissances de la physique essentielles, donc c'est une feuille qu'on essaie de mettre en valeur pour que l'élève distingue de, qu'il sache que c'est le savoir de référence, le savoir partagé par la classe et sur lesquels il va se référer quand il va devoir répondre. Il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est chronophage? On en a parlé. Oui, évidemment, énormément. Ça permet des fois de gagner du temps. Et puis, les exercices, on continue à en faire. Les TP, travaux pratiques. On appelle plus ça tout à fait des TP, mais plutôt des activités expérimentales. Mais les élèves continuent à manipuler. L'évaluation, oui, il y en a encore. Le cours magistral. Ça dépend des collègues. Je peux vous donner mon approche à moi enseignant. Lorsque j'ai des secondes, zéro cours magistral. Lorsque j'ai des premières et des ce qu'on appelle la spécialité en terminale scientifique, c'est des petits groupes qui travaillent beaucoup en travaux pratiques, pas de cours magistral. Quand j'enseigne en terminale scientifique en tronc commun, donc en classe, le cours, la partie essentielle, on va dire, des sciences physiques de la terminale scientifique. Terminale, c'est, je sais pas si tout le monde s'est dit juste avant le bac, hein. Eh bien, oui, de temps en temps, il y a du cours magistral parce que il y a un programme à suivre et le programme, en ne faisant que ça en terminale, c'est pas possible. Donc, il faut faire des choix.